Je vais nous poser la question suivante. Est-ce que Jésus a la première place dans mon cœur, dans ma vie, dans mes œuvres aussi? Et est-ce que le talent, les dons qu'il m'a donnés servent à l'adorer lui seul et lui donner toute la gloire, l'honneur, l'adoration qui lui revient? Est-ce que dans toutes les sphères de ma vie, hein, chrétienne, est-ce que le Seigneur a la première place? Et c'est la question que le Seigneur nous pose ce matin. Parce que parfois, on se laisse aller, hein? Et étant encore dans notre chair humaine, bien, on est poussé parfois à ne pas avoir les yeux à la bonne place, je vais dire comme ça. Ne pas être disposé toujours à adorer le Seigneur en toutes choses et dans toutes choses. Certains sont à l'église pour chercher de nouvelles sensations, vibrations, pour vivre et rechercher une expérience spectaculaire où ils sont la vedette, ou comme les spectateurs humoristiques, hein, ou encore pour juger les performances des preachers. Comment ça s'est... Est-ce que c'est ce que nous cherchons ce matin? On ne cherche pas dans la présence de Dieu, dans la maison de Dieu, des choses humaines. Ça ne devrait pas être comme ça, personnellement et aussi en assemblée. Parce que parfois, on se laisse aller, hein? Ah, il n'a pas fait une petite joke un matin, il n'a pas prêché comme Billy Graham, comme un grand nom connu. Il n'a pas amené cette approche comme un tel, où il n'a pas... Non, parce que ce qu'on cherche, c'est premièrement servir Dieu. Autant comme prédicateur, comme assemblée et individu, ce que nous cherchons, c'est de plaire à Dieu et non aux hommes. Et lorsqu'on perd cela de vue, bien, on est en train d'échouer. On est en train de diminuer et de se laisser emporter par toutes sortes de choses, je vais dire comme ça, toutes sortes de choses que le Seigneur n'aime pas. C'est assez clair. L'idée du Seigneur n'est pas un endroit où je viens pour me satisfaire, mais pour chercher le Seigneur, pour entendre ce que le Seigneur a à me dire. L'Église n'est pas non plus un endroit où je viens pour me vanter, pour me comparer aux autres ou encore m'élever de ce que le Seigneur a fait pour moi et ce que j'ai vécu dans cette semaine afin de montrer aux autres mon niveau de spiritualité élevé ou ma connaissance élevée. Ce n'est pas ce qu'on recherche, car cela fait partie de différentes formes d'idolâtrie que nous voyons dans les Écritures. Tout ce qu'on élève en dehors de Dieu, c'est de l'idolâtrie. Et Dieu n'approuve pas, n'est pas en arrière. Je ne rends point l'adoration au Seigneur par mes pensées, par mon cœur, mes désirs. Donc, je ne l'élève pas, lui, le seul vrai Dieu. Et lorsque je pensais à ces choses, bien, vous savez, frères et sœurs, dans chaque rencontre où le peuple de Dieu est assemblé, l'Esprit de Dieu est présent. Malgré parfois qu'il y en a qui sont mal, mal intentionnés, mais dans leur approche avec le Seigneur est quand même présent au milieu de nous. Le Seigneur se manifeste dans son Église. L'Esprit de Dieu est présent et agit et il rend témoignage de Dieu et révèle le Fils de Dieu en chacun de nous, de différentes manières. Mais c'est ce qu'il est appelé à faire et c'est ce qu'il fait. Et lorsque je réfléchissais sur cela, je me disais, bien, le premier endroit où l'Esprit va agir, c'est dans le cœur de chaque auditeur. Amen. Le premier endroit où l'Esprit va se manifester, c'est dans ton cœur. Dans chacun des cœurs, de nos cœurs, dans chaque participant Parce que nous sommes tous appelés dans la maison de Dieu comme participants et non seulement comme auditeurs. Comment? Ah, ben ça, c'est la plus belle des choses, dans l'adoration, dans la manifestation de la gloire de Dieu. Le deuxième, dans notre vie, par une révélation à travers l'enseignement. Le Seigneur, par son esprit, vient dans notre vie, se manifester dans notre corps, notre âme, notre esprit. Il vient transformer les choses qui doivent l'être. Il vient relever celui qui les parties du corps, parfois, qui sont plus faibles. Et il vient se révéler à travers l'enseignement. Troisième, au milieu du corps, par sa transformation qui opère dans un abandon profond à sa volonté. Donc, une autre forme que l'esprit va travailler, c'est la transformation. Il vient dans le cœur et il vient dans notre vie. Il nous parle par la parole de Dieu, par son esprit, et il transforme les choses. Il vient pour transformer notre cœur, nos façons de penser, nos façons d'agir, afin que tout rende gloire à Dieu. Et c'est le quatrième. Dans une adoration, une action de grâce qui reconnaît la souveraineté, la gloire et l'honneur de Dieu par Jésus-Christ. Amen. Tout doit être ensemble pour élever le Seigneur. Notre cœur, notre âme, notre esprit, la louange, l'adoration, la parole de Dieu, tout sert à élever Dieu dans sa présence. Et tout cela, frères et sœurs, c'est l'Esprit qui vient et qui souffle en nous. Un souffle nouveau. Je pense que ce que nous éprouvons intérieurement et profondément par l'Esprit envers le Seigneur devrait aussi être démonstratif par une extension qui est visible de l'extérieur aussi. Qu'est-ce qu'on dit par là? C'est que lorsque le Seigneur vient travailler en moi, dans ma vie, dans mon cœur, dans mon être, et m'enseigne des choses, me pousse, bien, je vais adorer Dieu. Tout cela va servir à adorer Dieu. Autant dans le service que dans mes paroles, que dans mes pensées. Et c'est là que le Seigneur agit. C'est en nous et profondément dans notre vie, notre être, que le Seigneur se manifeste par son esprit. Et cela devrait être démonstratif. On vient dans la présence de Dieu, puis on reçoit dans la présence de Dieu l'enseignement, la gloire, puis rester immobile, muet, sans rien démontrer. Il y a quelque chose qui se passe, ou qui devrait se passer. Ça devrait inonder. Ça devrait sortir. David ne dansait-il pas pour son Dieu? David ne jouait-il pas d'instrument pour son Dieu? Et c'est ce que la parole de Dieu nous enseigne. Adorez l'Éternel, vous toutes les nations. Toute la terre, la création, loue l'Éternel. Et moi, je viendrai dans la présence de Dieu et les yeux fermés, les poings fermés, puis immobile. On a besoin, frère et soeur, d'extérioriser, de laisser le Seigneur paraître et transparaître au travers nous, nos actes, nos actions, nos paroles, dans toutes choses. Et quand il était, je pensais, quand il était la première fois, quand était la première fois, quand était la première fois que tu t'es littéralement prosterné ou courbé jusqu'à terre, c'est ce que ça veut dire, ou te mettre à genoux pour adorer le Seigneur. Quand était la dernière fois que tu t'es prosterné devant le Seigneur, que tu l'as démontré par un geste? Et on voit ça souvent, on voit ça dans l'Ancien Testament, mais dans le Nouveau Testament aussi. Élever les mains pures, on chante ça, mais se prosterner aussi, on le chante. Et ça devrait faire partie d'une pratique. Hein? Une fois, on a peur, on a comme un petit peu gêné. Si je me mets à genoux, qu'est-ce que les autres vont penser? Si je lève les bras, qu'est-ce que les autres vont penser? Si je prie fort, qu'est-ce que les autres vont penser? Mais on ne vient pas pour servir les autres, on vient pour servir Dieu. On vient pour servir Dieu. On ne devrait même pas s'arrêter à ce que c'est qui est à côté de moi seulement. Qui me regarde, qui ne me regarde pas, c'est pour qui je le fais. C'est pour Dieu. On devrait avoir cette liberté de louer notre Dieu d'une façon qui l'honore. Et toutes les façons, ben, presque toutes, les façons sont bonnes pour louer Dieu. Parce qu'aujourd'hui, on voit des choses qui... je cherche parfois en quoi ça honore Dieu. Mais lever nos mains devant le Seigneur, nous prosterner devant lui, ça fait partie des actes, des actions qui démontrent ce qu'il y a eu à l'intérieur. Et lorsque des personnes viennent me voir, me disent « J'aimerais ça me faire baptiser. » Mais pourquoi tu veux te faire baptiser? Pourquoi est-ce que tu veux te faire baptiser devant tout le monde? C'est pas pour démontrer, c'est pas pour te montrer, mais c'est pour démontrer ce que le Seigneur a fait en toi, qui maintenant, par un acte visible, tu veux le montrer. Tu veux démontrer ce que le Seigneur a fait, la transformation, et qu'a fait la transformation en dedans. Donc, on ne commence pas par le baptême, on commence par accepter le Seigneur. Le baptême, c'est une représentation visuelle de ce qui s'est passé dans le cœur de la personne. Et la louange à Dieu, c'est la même chose. La louange devrait avoir une extension aussi à l'extérieur, pas seulement à l'intérieur, mais qui se démontre aussi à l'extérieur. Paul nous dira dans Philippiens chapitre 2, versets 9 à 11. Donc, on vit dans notre texte de ce matin. Philippiens, chapitre 2, épître aux Philippiens, chapitre 2, versets 9 à 11, où il dit ceci, « C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé, en parlant de Jésus, et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse, dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire du Père. » Amen. Vous voyez ce qui se passe ici? Dieu l'a souverainement élevé afin qu'il porte le nom qui est au-dessus de tout nom. Et pourquoi? Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse. Tout ce qui s'est passé à l'intérieur a eu un impact aussi à l'extérieur, dans nos actes, dans les actions. Lorsque Dieu a souverainement élevé Jésus, c'est ce qu'il voyait. Il l'a élevé de la sorte à ce qu'on l'élève nous aussi. Et lorsque je méditais là-dessus, il y avait tellement cette image, Jésus qui a élevé le premier, le Fils de Dieu. C'est Jésus qui a été le premier à l'élever. Mais nous, quand tu as été la première fois où l'homme a élevé Jésus à la croix? À la croix. Jésus l'a élevé comme roi et nous l'avons élevé pour le crucifier. Ésaïe 53, versets 4 et 5, nous dira cependant, « Ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. » Amen. Dieu l'a souverainement élevé afin que tout genou fléchisse devant lui. Mais nous, nous l'avons élevé afin qu'il soit puni. Il y a quelque chose qui doit être transformé dans notre cœur afin que nous élevions le Seigneur comme Dieu l'a élevé et non comme les hommes l'ont élevé. Le contexte de ce que Paul nous dit dans Philippiens, bien, nous parle en rapport avec l'humilité que le Seigneur a démontrée dans son obéissance, allant jusqu'à la mort pour chacun de nous. Il a été jusqu'à la mort pour nous. Jésus n'a point regardé comme une proie à arracher d'être l'égal avec Dieu. En d'autres mots, il ne s'est point servi de sa souveraineté, son égalité avec le Père, pour en profiter et faire ce qu'il voulait. Mais il s'en est remis avec humilité à l'œuvre que le Père lui avait destinée. Est-ce que nous sommes prêts à faire la même chose? Est-ce que nous sommes prêts, nous aussi, à nous en remettre avec humilité à l'œuvre que le Père nous a donnée de faire pour lui? Et cette première œuvre qu'il nous a donnée, c'est de l'adorer. De l'adorer. Jésus a retrouvé la place qu'il avait auprès du Père pour s'asseoir à sa droite. Et lorsque je pensais à lorsque Jésus est retourné et s'est assis à droite, ça me faisait penser comme le bâton de justice tenu dans la main du grand roi et Père du ciel et de la terre. Et le roi tenait le bâton de la main droite. Et à quoi servait le bâton? À quoi servait le bâton du roi? À la justice. Si quelqu'un se présentait devant lui, il devait avoir reçu la justification ou l'approbation du roi. Et Jésus est notre approbation ce matin. Pour venir dans la présence de Dieu. C'est par lui et à cause de lui que nous avons ce privilège de nous approcher de Dieu. Nous devons toujours reconnaître la souveraineté élevée du Seigneur, car elle lui a été donnée par Dieu. Son nom qui dépasse infiniment tout autre nom, car devant ce nom, tout genou fléchira, et personne ne pourra se tenir debout devant lui. Lorsqu'on va paraître en sa présence. On dit qu'en signe de respect, il faut se prosterner devant un roi, mais en ce qui concerne Jésus, se prosterner signifie reconnaître aussi sa souveraineté et son autorité. Que son esprit puisse nous instruire ce matin et nous enseigner l'humilité et la révérence que nous lui devons, chacun de nous. Paul nous dira dans sa deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 5, verset 10, « Car il nous faut tous. » Il n'y en a pas qui vont avoir de privilèges, qui vont passer à côté. Paul nous dit « Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ. » Qu'importe qui ce que tu es ce matin qui écoute, tu auras à passer devant le tribunal de Christ. « Afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait, étant dans son corps. » Donc, il y a un jugement qui s'en vient et on va tous comparaître. Qu'est-ce qui peut me justifier? Qu'est-ce qui peut me sauver? Jésus a été donné pour nous. Contexte, malgré toutes les difficultés de la vie sur la terre, que tout est éphémère, que parfois nous gémissons accablés, et le fait d'avoir vivre par la foi, bien cela dure un temps. Tout cela est éphémère. Nous pouvons demeurer confiants et avons une espérance en lui étant agréable, en lui étant agréable. Car nous savons en qui nous avons cru et que nous savons qu'il demeure fidèle à chacune de ses promesses. Amen. Vous savez, lorsqu'on regarde à l'horizontal, on voit seulement que les choses de la terre. Et ça peut décourager et ça peut nous écraser même. Mais lorsqu'on regarde à la verticale, qu'on regarde vers le ciel, le Seigneur est notre aide. Il est puissant et il est vivant. Un psaume de David, au psaume 95, verset 6, il nous dit ici, « Venez et prosternons-nous, humilions-nous, fléchissons le genou devant l'Éternel, notre Créateur. » Il faut le reconnaître ce matin. Il faut reconnaître sa sainteté. Il faut reconnaître qu'il est notre Dieu, qu'il a tout créé. Et on voit cet aspect, hein, de se prosterner avec humilité. On ne se prosterne pas devant le Seigneur avec une arrogance. Avec arrogance. Vois, Seigneur, tout ce que j'ai accompli. Vois, Seigneur, tout ce que j'ai fait, tout ce que je fais. Non, Seigneur, parce qu'il n'y a rien que je puisse faire sans ta volonté. Et tout ce que je fais, c'est pour ta gloire ce matin. La deuxième partie, notre passage de Philippiens 2, versets 10 et 11, nous dit « Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse, dans les cieux, sur la terre, sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus est Seigneur, à la gloire du Père. » Et lorsque je méditais encore sur cela, il me venait cette pensée, lorsque Satan a tenté Jésus dans le désert. On voit ces textes dans Matthieu, Évangile selon Matthieu, chapitre 4, versets 9 et 10. Lorsqu'il nous a dit ici, Satan approche, lorsque Satan s'est approché de Jésus, et lui dit, « Je te donnerai toutes ces choses, en parlant de tous les biens de la terre, si tu te prosternes et m'adores. » Il parlait à Jésus. Jésus y répond, verset 10, « Retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul. » Deux choses que le Seigneur lui répond. Adorer le Seigneur et le servir. Ce n'est pas tout d'adorer le Seigneur. Il faut aussi le servir. Le Seigneur, oui, veut être adoré. Mais quelle plus belle marque, hein, d'adoration qui vient avec l'adoration que le service. L'ennemi sait que le jour où tu adores ou que tu l'adores, lui, qu'il a réussi à te séduire, qu'il a réussi à te séduire. Et Jésus le savait lorsqu'il dit dans Matthieu, chapitre 6, verset 24, « Nul ne peut servir deux maîtres. Hein? Car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou s'attachera à un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. » Et Mammon. Le Seigneur le savait. Et jamais il ne se serait prosterné devant Satan. Et la même chose pour chacun de ses enfants. On ne peut servir deux maîtres. Et vous voyez ici ce que Jésus fait. Il dit, celui qui va servir un autre maître va aussi l'adorer. il ne sera pas digne de moi. J'ai bien peur que certaines idées aient oublié ces paroles du Seigneur. En adorant et priant des morts, des statues, des prédicateurs, des chanteurs, au lieu de n'adorer et de ne louer que le Seigneur et lui seul, qui doit recevoir toute la gloire. Qui doit recevoir toute la gloire. Je vois peut-être, il y en a qui n'aimeront peut-être pas ce que je dis. Mais on n'a pas besoin de faire des grands rassemblements puis de faire venir un grand prédicateur. On n'a pas besoin de faire des grandes choses puis d'essayer d'attirer le monde par des grands spectacles avec des artistes renommés. Puis des prédicateurs renommés. Nous avons besoin d'être sur nos genoux et d'adorer Seigneur. C'est ça qu'on a besoin. Qu'est-ce qui se passait dans l'Église? On aime ça dire, ah oui, mais l'Église, on viendrait comme la première Église. Qu'est-ce qu'il avait à la première Église? Hein? Était dépendante de Dieu. Amen. Elle ne cherchait pas les grandes choses. Chaque jour, ils étaient tous ensemble assidus au temple, dans la grande assemblée. Et le Seigneur est pour les grandes assemblées. Il rompait le pain dans les maisons. Ah, le Seigneur aime les petites assemblées aussi, maisons. Donc, les deux sont corrects, les deux sont bons. Mais ça prend aussi la grande assemblée. On ne peut pas juste faire une petite assemblée, bien, même si on veut, puis qu'on fait ce que le Seigneur nous demande de faire. Qu'est-ce qu'il nous a dit? Dans Actes chapitre 2, pour ceux qui veulent la référence. Verset 46, « Ils rompaient du pain dans les maisons, ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. » Et moi, c'est ce qui m'a toujours marqué et ce qui me fait vibrer, c'est ça. Avec simplicité de cœur. On ne cherche pas à faire les autres, les choses à la perfection pour paraître. Mais on fait les choses simplement, mais avec notre cœur. C'est ça que le Seigneur demande. On pourrait tout être en cravate un matin, mais ne pas être dans le plan de Dieu. On pourrait tout avoir une table pour s'asseoir dans les lieux de culte, et Dieu va être glorifié. Qu'importe la manière qu'on se rassemble, c'est pas les tables, c'est pas ce qu'on met sur notre cœur, notre corps. C'est pas parce que j'ai été me faire couper les cheveux hier pour. C'est pas ça que le Seigneur recherche. Il recherche une Église qui est simple, une simplicité de cœur, qui adore le Seigneur, qui aime son Dieu. C'est ça que le Seigneur recherche. Et qu'est-ce que ça nous dit au verset 47? Il louait Dieu. Il louait Dieu. Et trouvant grâce auprès de tout le peuple, et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Ils n'ont pas appelé, on est dans le début de l'Église, je ne peux pas dire à Paul parce qu'il n'était pas encore arrivé, mais ils n'ont pas appelé Pierre, ils n'ont pas appelé qui que ce soit, ils ont vécu la vie, ils ont juste fait la vie d'Église simplement avec amour. Ils n'ont pas recherché la grandeur, la splendeur pour paraître. Ils ont cherché seulement par simplicité de cœur à louer Dieu, à marcher fidèlement, à servir le Seigneur. C'est ça que le Seigneur nous demande aussi. Le côté un peu moins beau de l'affaire, parce que si on n'en parle pas, c'est le verset juste avant, que c'est rare qu'on va parler. Parce que c'est plus de mise aujourd'hui. Il y a des contextes qui se prêtent, comme ceux-là, mais il y a d'autres contextes qui ne se prêtent plus aujourd'hui. Quel est le verset qui était précédent avant? Il était juste avant, verset 45. Ils vendaient toutes leurs propriétés et leurs biens, ils le partageaient, le produit entre tous, selon les besoins de chacun. Ça, on n'en parle pas, hein, l'Église primitive. On n'est plus dans ce contexte-là aujourd'hui. On loue la première Église à cause de ce qu'on a vu ensemble. Mais on ne peut pas mettre en application tous les principes qui étaient dans l'Église primitive. C'est pour ça, des fois, il y en a qui disent « Ah, j'aimerais tellement qu'on vienne au temps de l'Église primitive. » Le contexte n'y se prête pas. Aujourd'hui, on a besoin d'un bâtiment, de payer des factures, de faire ci, de faire ça. Sinon, bien, on vend toutes nos maisons. Je vais lancer un appel à tout le monde le matin. On vend toutes nos maisons, puis on se fait un petit domaine ici sur le terrain d'église, puis on vit en communauté. Des fois, j'aimerais ça, mais... Parce que j'aime être avec les frères et les sœurs. On a tout le temps des bons temps bénis. On est tout le temps ensemble pour la bonne chose. Parce qu'on recherche la bonne chose. On recherche le Seigneur. La manifestation, la puissance de Dieu au milieu de nous et d'élever le Seigneur, de le voir agir, de le voir travailler de différentes manières. Fin de parenthèse. Lorsque Jean décrit Jésus dans l'Apocalypse et qu'il lui donna la révélation de ces choses à venir, dans Apocalypse chapitre 1, versets 17 et 18, il nous a dit, « Quand je le vis, je tombe à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, » et c'est Jésus ici, « ne crains point. » C'est Jésus qui a dit ça à Jean. Verset 18, « Je suis le premier, le dernier et le vivant. » J'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et le séjour des morts. Pourquoi Jésus est digne de louange? Parce qu'on a besoin de lui. C'est lui qui tient la clé. Il n'y a personne qui peut rentrer dans la présence de Dieu sans avoir passé par Jésus. Et dans une prière ce matin, je trouve ça intéressant, quelqu'un est parlé du pont, que Jésus est le pont entre l'humanité et Dieu, parce que ce pont est aussi la clé. Il n'y a personne qui peut passer de l'humanité à l'éternité, dans la présence de Dieu, dans le royaume de Dieu, sans que le Seigneur lui ait ouvert la porte. Jésus est la clé que chacun a besoin pour rentrer dans la présence de Dieu. Romains chapitre 14, verset 11 dit, « Car il est écrit, « Je suis vivant, dit le Seigneur, tout genou fléchira devant moi. » Romains chapitre 14, Épître aux Romains chapitre 14, verset 11, « Je suis le vivant. » Jésus est vivant. Amen. Jésus est vivant. Il est ressuscité et dit, « Tout genou fléchira devant moi. » Il n'a pas dit devant le Père, devant moi. Et toute langue donnera gloire à Dieu. Amen. Lorsqu'on va être dans la présence du Seigneur, ça va être pour louer Dieu. Qu'est-ce que vous allez faire, vous autres, au ciel? Des fois, on a cette question-là. Qu'est-ce que vous allez faire au ciel? Bien, on attend les noces de l'agneau, qu'on va se réjouir, il va y avoir de grandes réjouissances, et on va rendre gloire à Dieu, d'éternité en éternité. Pourquoi? À cause de sa miséricorde, de sa grâce qu'il a exercée envers nous. On ne cessera de le louer jour et nuit, à cause de ce qu'il a accompli pour nous. La fin de notre passage dit « Toute langue donnera gloire à Dieu ». Et français courant, traduit par « Tous célébrons la gloire de Dieu ». Ou encore, la version de la traduction sommaire dira « Toute langue me reconnaîtra comme Dieu ». Vous voyez, ces différentes traductions des textes grecs, qu'est-ce que ça nous donne? Une richesse, une grandeur, une profondeur. Encore plus tangible. Tous célébreront la gloire de Dieu, où toute langue le reconnaîtra comme Dieu. Louer le Seigneur avec notre langue veut tout simplement dire de le louer par notre bouche, car il veut entendre la célébration. Il veut entendre notre louange. Il veut entendre notre voix. Et si ce matin, quelqu'un écoute puis qu'il n'y a pas de voix, bien, loue Dieu avec ton cœur, de toute ton âme, ta pensée. Paul nous dira dans Colossiens chapitre 3, versets 16 et 17, que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse. Par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs, sous l'inspiration de la grâce, et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Amen. C'est ce que nous sommes encouragés et ce que l'Église est encouragée. Non pas à se glorifier ou à glorifier nos capacités, mais à glorifier le Seigneur en nous instruisant et en nous enseignant de la parole de Dieu. C'est ça qu'on a besoin. Louez le Seigneur pour tous ses bienfaits. Célébrez-le. Combien de cantiques, hein? Combien de psaumes ont été écrits qui nous invitent à célébrer notre Dieu. Chantez et célébrez le Seigneur de tout notre cœur. C'est lui rendre avec adoration, une grande adoration, tout comme le fait David dans plusieurs de ses cantiques. Et je pensais aussi à Moïse, hein, qui a écrit un cantique à l'Éternel, où ce qu'on voit dans l'Apocalypse, la référence par cœur, mais même dans l'Apocalypse, hein, où est-ce que ça nous dit qu'on va chanter le cantique de Moïse dans l'éternité. Wow! Moïse qui a écrit un cantique, hein, il y a plus de 4000 ans, presque 4000 ans, et qu'on va rechanter ce cantique dans l'éternité, dans la présence de Dieu. On va être avec ces grands hommes, ces grands prophètes, hein, que Dieu a donnés à la terre. Mais on va être aussi avec nos frères et sœurs qu'on voit ici ce matin avec nous. Dieu nous permet de voir à travers la grandeur et la complexité de sa création afin de lui rendre grâce en toutes choses. Hein. Romains chapitre 1, l'Épître aux Romains chapitre 1, verset 20, nous dit en effet les perfections invisibles de Dieu. Sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil. Depuis la création du monde, quand on les considère dans son ouvrage, on les voit, frères et sœurs. On les voit. Tout ce que Dieu a fait est parfait. Au départ, je vais mettre une petite parenthèse. Lorsque Dieu a créé la terre, tout était parfait. Lorsqu'il a créé le ciel, tout était parfait. Lorsqu'il a créé l'homme, il était parfait. Il était à son image, au départ. Et sa puissance éternelle et sa divinité se voient à l'œil. Sa puissance éternelle et sa divinité. Est-ce que nous la contemplons? Est-ce que nous la voyons ce matin? C'est possible. Avec un cœur repentant et une humilité, s'approcher de Dieu, se prosterner devant Dieu, bien, va nous faire voir sa puissance éternelle. Va nous faire goûter même cette puissance et cette divinité qui va se manifester, qui se manifeste même dans notre vie. On la voit hein, dans la galaxie, dans la grandeur. On la voit dans la petitesse, mais on la voit aussi à l'intérieur de nous. Les actions de grâce ne peuvent pas manquer quand on regarde l'abondance de la création de ses mains qui exercent tant de bonté, d'amour, de bienfait envers nous. Et malheureusement, comme être humain, on est souvent porté à regarder à ce qu'on n'a pas. À pleurer sur ce qu'on n'a pas, ce qu'on n'a pas eu, ce qui nous manque, sur ce qui nous fait mal, sur ce qui est difficile, et ainsi de suite. Mais lorsqu'on regarde toutes ces choses, elles vont toutes prendre une fin. Et lorsqu'on porte nos yeux plutôt à la verticale, vers le Seigneur, il y a des choses qui se passent, des changements qui se passent en nous, dans notre vie et alentour de nous. Dans Apocalypse, chapitre 5, versets 11 à 13, il dit ainsi, « Je regarde et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône et des êtres vivants et des vieillards, et leur nombre était des myriades de myriades et des milliers de milliers. » Apocalypse, chapitre 5, verset 12, il disait d'une voix forte, « L'agneau qui a été immolé. » Qui est cet agneau qui a été immolé? C'est Jésus qui a été immolé et qui est mort pour nos péchés. C'est lui qui a été donné en sacrifice pour chacun de nous ce matin. Il a été immolé et est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer et tout ce qui s'y trouve, je les ai entendus dire, qui disait à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, à Dieu et Jésus, son Fils, soit ta louange, soit l'honneur, la gloire, la force au siècle des siècles. Amen. Tout ce qui est dans la présence de Dieu loue le Seigneur. Vous savez ce qui se passe présentement, le temps qu'on se parle, dans le ciel? Les anges louent Dieu. Toutes ces créations, toutes ces créatures louent le Seigneur. Ça donne une autre perspective, hein? Ça nous donne une autre perspective. Lorsqu'on pense à toute l'immensité et tous ces anges, ces myriades d'anges qui sont dans la présence de Dieu en ce moment même qui louent le Seigneur. Et que Jésus nous dit qu'il vient chercher ceux qui sont préparés. Ceux qui l'ont accepté, qui ont donné leur vie. Il vient nous chercher afin que, en un instant, en un clin d'œil, on se retrouve dans sa présence pour l'éternité. Vous savez, là, c'est comme si on rentrait dans un endroit où ce que tout le monde est en train de louer puis d'adorer Dieu. Et qu'on rouvre la porte pour rentrer. C'est ça qui va arriver. Lorsque le Seigneur va nous emmener dans sa présence, qu'on va rentrer dans la présence de Dieu, ça ne sera pas le silence. Ça va être la fête. On va rentrer dans un endroit, frères et sœurs, où il y a la louange Il y a l'adoration et que tout être loue Dieu. Comment ne pas se préparer tout de suite à louer le Seigneur, à adorer Dieu? C'est impensable. On a besoin, frères et sœurs, de voir plus grand que ce qui est à l'horizontale. Et lorsqu'on a les yeux sur ce qui est vertical, sur la présence de Dieu, sur ce qui nous attend dans la présence de Dieu, où ce qu'on va, il n'y aura plus ni douleur, ni tristesse, nous dit l'Apocalypse. Là où il n'y aura plus deuil, il n'y aura plus de mort dans la présence de Dieu. Ça va être fini. Il n'y aura plus de foi. On n'aura plus à vivre par la foi. Parce que tout va être accompli. On va vivre par la vue, dans la présence de Dieu. C'est une joie, c'est un... Cherchez les mots ce matin. Mais c'est, comme on dit, ça va être le paroxysme. Rentrer dans la présence du Dieu trois fois saint. Mais pour ça, il faut se préparer. Comment est-ce qu'on se prépare? En arrêtant de se prendre pour Dieu, en arrêtant de se donner la gloire à nous, mais seulement qu'à Dieu, en arrêtant de donner la gloire à d'autres qu'à Dieu, car lui seul est digne de recevoir toute la louange, l'honneur, la puissance, la force. Rendons notre adoration à la gloire, à la hauteur de celui qui nous a appelés à sa souveraineté élevée dont Dieu lui a donné. Car un jour, tout genou fléchira devant lui. Que ça importe la personne qui nous écoute ce matin, tout genou fléchira devant lui. Il n'y a personne qui va se tenir debout et penser, prétendre amener quelque chose de que Dieu ne s'attend pas. Il a tout fait, il a tout accompli. Nous pouvons commencer maintenant en lui rendant par notre cœur, notre bouche, la louange qui lui est due. Et que cette louange puisse monter dans la présence de Dieu. Je terminerai avec ce passage, 2e Épître aux Corinthiens, chapitre 2, verset 15, ce matin. Où Paul dit ceci, « Nous sommes en effet, pour Dieu, la bonne odeur de Christ. Parmi ceux qui sont sauvés, parmi ceux qui périssent. Qu'importe où le Seigneur t'a placé et où tu te trouves, que tu sois au milieu des saints ce matin, que tu sois au milieu de l'Église, de l'Assemblée de Dieu, ou que tu sois dans le monde, à l'extérieur, dans ceux qui périssent, tu es la bonne odeur de Christ. Pour certains, une odeur qui vient, qui amène le salut, et d'autres, la preuve qu'il y a un temps déterminé pour la terre, pour la vie de chaque personne. Donc, que ces paroles puissent retentir en nous ce matin à la gloire du Père en Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Donc, je vais terminer par un mot de prière. Bien étant notre Dieu, nous approchons par Jésus et à travers ces paroles, Seigneur Dieu, que tu places en nous par ton esprit, bien, nous pouvons, Seigneur, être grandement enrichis ce matin par ces paroles qui nous invitent à être la bonne odeur de Christ, par nos louanges, par notre adoration. Seigneur, viens transformer ce qui doit l'être en nous. Viens transformer ce qui doit l'être dans notre cœur, dans notre vie, dans nos pensées et même dans notre bouche. Et que nos lèvres, Que nos langues, Seigneur, célèbrent ton nom. Car toi seul, Seigneur Dieu, es digne. Seigneur, je te prie que par ton esprit, tu nous éclaires sur ce qui ne t'honore pas, sur ce qui ne te donne pas la gloire dans notre vie, sur ce qui ne t'honore pas, ce qui ne te donne pas toute la gloire dans nos pensées, dans notre service, comme on a vu aussi. Seigneur, mais que tout ce qui est en moi loue l'Éternel. Que tout ce qui respire en moi loue mon Dieu. Que toute la terre loue l'Éternel. Seigneur, que ton Église, ton Assemblée, ton peuple, qu'importe où ce que nous sommes sur la terre ce matin, que chacun de nous, Seigneur, puisse servir à louer ton nom. Puisse te servir, Seigneur, en louant le nom qui est au-dessus de tout nom, qui nous a été donné par la souveraineté de Dieu. Afin, Seigneur, qu'il soit et qu'il devienne souverain, Seigneur et Maître, dans chacune de nos vies. Seigneur, merci pour ton sacrifice à la croix, Seigneur, qui nous fait voir, qui nous fait réaliser que nous ne sommes rien sans toi, que nous avons besoin de toi. Seigneur, merci pour qui tu es et merci pour ce privilège que nous avons, chacun de nous, chacun que tu as appelé à toi à te servir, de te louer, de t'adorer. Qu'on ne cesse de te louer, Seigneur, comme les anges te louent, parce que bientôt, nous serons dans ta présence et nous pourrons te rendre toute la gloire, tout l'honneur, toute la puissance et la majesté qui te revient. Car toi seul en es digne, notre Dieu. Amen et amen. Soyez bénis, passez une belle semaine, comme il a été dit. La semaine prochaine, on a un frère pasteur de Québec qui va être avec nous, notre frère Stéphane Couture. Pour certains, il est déjà venu, j'ai vu dans les annales de l'Église qu'il est déjà venu, oui, deux fois. J'ai essayé d'aller voir les messages, c'est comme bloqué, je ne sais pas. En tout cas, mais il va être tout là la semaine prochaine, dimanche prochain. Nous aussi, on va être là pour louer le Seigneur. Bien, que le Seigneur puisse nous apprendre à louer davantage cette semaine, qu'on puisse avoir cette liberté ensemble pour le louer, l'adorer. Amen. C'est la place. Musicien, le dernier chant.